Donc, il est urbaniste. Il vient de sortir un bouquin sur la gratuité du transport en commun qu'il a coécrit, qui s'intitule Free Public Transport and Why We Don't Pay to Ride Elevators. C'est un livre qui sera disponible en français sous peu. Jason Prance, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici.
Merci. Donc, il y a plusieurs villes dans le monde qui ont adopté la gratuité. Ben, peut-être qu'on pourrait commencer par ça. C'est quoi la gratuité?
Alors, il y a 100 villes le monde entier qui a adopté gratuité pour le transport en commun complète, on peut dire. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont adopté les mesures diverses en gratuité. Alors, je vais juste expliquer un tout petit peu pour le premier. On a le plus grand, c'est la capitale d'Estonie. C'est le Tallinn, qui ont adopté en 2013 gratuité pour tous les citoyens de la ville.
C'est la capitale de l'Estonie.
Exact. Alors, c'est maintenant le leader mondial, on peut dire, dans la chose. Et puis, ils ont trouvé que malgré le fait qu'ils vont devoir dépenser plus pour permettre que c'est gratuit, parce que si on élimine le user fee, c'est la ville qui adopte ça. Mais c'était un peu paradoxal, c'était pas anticipé, mais ils ont gagné plus d'argent par la suite. Parce que les gens ont déménagé dans la ville pour en profiter. Alors, ils ont commencé à payer les taxes à Tallinn. Et alors, la ville a fait de l'argent avec.
Les taxes foncières, c'est quoi les revenus qu'on peut avoir avec
ça? C'est les taxes foncières, c'est les taxes municipales.
Dans le fond, le prix des immeubles monte, puis les gens c'est
non, non,
plus?
Non, c'est, depuis 2013, c'était revenu immédiat. Plusieurs dizaines de millions de dollars de plus. On parle de 30 000 personnes qui ont inscrit comme citoyennes et, ont commencé à payer les taxes à la ville de Tallinn. Alors, c'était un net plus financièrement pour la ville. Ça, c'est important à retenir. Il y a un effet quand même de densification, on peut imaginer, là. Si on donne, mettons le centre d'une ville gratuité, là, pour les gens qui y habitent, alors il y aura un effet quand même des gens qui vont déménager. Alors, c'est quelque chose à retenir.
Le centre de Tallinn devient plus attractif, les gens s'y installent plus. Est-ce que ça a un impact aussi sur le prix des loyers, justement?
C'est une bonne question. Il y a certainement des effets secondaires. Quand on fait des gestes, il y a des effets secondaires. On va devoir les mesurer. Ce qui était le cas dans Tallinn, il n'y avait pas de mesures en place. Alors, c'était un peu improvisé par un leadership politique. Ils ont fait un sondage après une élection, pour sonder les gens. Est-ce qu'on veut adopter gratuité? 20% ont participé dans le référendum et c'était favorable. Immédiatement par la suite, ils ont adopté gratuité. Ils ont commencé aussi à enlever la place pour la voiture à Tallinn. Alors, c'était un peu un mélange de leadership, mais avec quand même une constatation importante avec la population. Et ensemble, ils ont avancé. Mais c'est trop tôt peut-être de dire c'est quoi les effets secondaires. Il n'y avait pas aussi des mesures en place pour savoir c'est exactement quoi, parce qu'il y avait beaucoup d'autres questions à l'époque. Dans le livre, il y a une critique de l'affaire Tallinn qui est menée par un expert mondial qui est en train de produire son propre livre sur la chose. Sur la question de gratuité du transport en commun. Alors, c'est pour la peine de regarder le Tallinn et son réponse.
Alors, Jason, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on dit gratuité. La gratuité, évidemment, ça a un coût. C'est la société, dans le fond, qui se retrouve collectivement à assumer les frais.
Oui.
Mais tu es en train de me dire, dans le fond, que ça peut être payant en bout de course parce qu'il y a des effets secondaires au transport en commun gratuit qui compensent largement la gratuité. Là.
Dans ce cas-ci, oui. Mais alors, il faut juste garder ça comme en tête quand on avance un argument. Pour distinguer aussi, alors ces approches entre guillemets complètes, il y a une centaine de villes. Mais il y a beaucoup d'autres villes. Au Québec, il y en a beaucoup qui utilisent la gratuité avec plus ciblé, on peut dire. Par exemple, pour les gens en bas de 12 ans. Pour les aînés, pour les gens de faible revenu. On peut imaginer, alors, cibler les populations qui ont besoin. On peut aussi imaginer dans le temps, le fin de semaine, c'est gratuit. Car Free Day, c'est gratuit, par exemple, beaucoup de villes.
C'est vrai.
On a aussi des secteurs de villes. Le centre-ville, c'est gratuit à Seattle, à Portland, à Calgary, le centre-ville, où une ligne de transit est gratuite. Par exemple, à Montréal, le métro, le ligne bleue peut-être, c'est gratuit les dimanches. Alors, on emmène... Il y a une autre chose qui était essayée à Chengdu, population 4 millions. Ils ont essayé de faire bouger, parce qu'il y a trop d'achalandage dans le transport, congestion dans le transport en commun entre 8h et 9h le matin. Alors, ils ont adopté gratuité entre 7h le matin et 8h le matin.
Ah oui, c'est bon.
Oui, c'est
lutter,
bon.
Pour lutter contre la congestion.
Dans la congestion, dans le transport en commun.
Et, c'est mais... drôle parce qu'à Québec, on en parle justement de ça souvent. On dit qu'il y a trop de trafic sur les rues, puis c'est juste entre telle heure et telle heure. Effectivement, ça pourrait être une option peut-être.
C'est ça. Alors, on peut jouer un peu avec la tarification pour changer un peu les habitudes des gens. Mais à Chengdu, le chef de transport en commun, il avait dit, oh, mais ça n'a pas fonctionné très bien. On aurait dû offrir aussi un petit déjeuner gratuit aussi.
Bon, ça doit être un coup d'humour.
Ouais.
Finalement, est-ce que c'est possible concrètement la gratuité, disons par exemple au Québec ou dans le monde? C'est qui d'habitude qui paie là, dans les cas que vous avez étudiés dans votre livre?
Mais c'est quand on adopte gratuité de transport en commun. Mais il y a toujours en Europe, 50% de ces villes-là se trouvent en Europe. À peu près, le profil en Europe, c'est à peu près 80% payé par le régional et 20% par les usagers. Quand une ville adopte, alors c'est le 20% des usagers qui est maintenant payé par la municipalité. Il y a tout un chicane entre les niveaux, hein, quand il y a une modification dans les mesures comme ça, ou parce qu'il y a un changement de proche au niveau régional. Alors c'est compliqué. On a une étude de cas d'une petite ville de 50 000, qui était quand même un centre de transactionnel en Europe importante depuis 800 ans. Hasselt, il y a un chapitre sur ça.
En Belgique.
Oui, alors c'est une grande région avec un centre historique. Et le maire a adopté une approche de gratuité de transport en commun, mais aussi avec beaucoup d'autres mesures. À l'époque, c'était il y a 20 ans, il y avait une proposition de créer un troisième ring road. Je sais pas, je connais pas le mot en français.
Un périphérique.
Un périphérique, un troisième. Ah, c'est stupide. Pour permettre plus de circulation des automobiles. Il a lutté contre ça. Il a dit non, on fait pas ça là. On va adopter une autre approche. Et c'était, ils ont mis le stationnement gratuit au deuxième périphérique. Et le transport en commun gratuit pour mener les gens sans automobile au centre. Ah. Ils ont commencé avec... ils ont joué aussi avec enlever le stationnement dans le centre-ville. Ils ont transformé beaucoup, beaucoup de places en stationnement pour les mopeds, les mobilettes. Beaucoup plus de place pour les vélos, beaucoup de places complètement déautomobilisées, là, des places à piétoniser complètement. Et tranquillement, pas vite, on a eu une transformation majeure dans cette ville. Et malgré le fait qu'après 15 ans, ils ont arrêté la gratuité, ça n'existe plus, cette transformation était complète et permanente. Alors, c'est un mode de vie maintenant à Hasselt très important et complètement différent que c'était.
Ah, c'est drôle, ça fait un bel écho à ce qu'on vit actuellement à Québec. Est-ce qu'on élargit les autoroutes, on ajoute des routes, on élargit, ou est-ce que justement on essaie de prendre le problème plus à la base, d'essayer de faire quelque chose de plus structurant à long terme?
C'est ça, c'est un choix. à Detroit, ils ont pris le choix d'amener les voitures en ville... à l'extrême. Et maintenant, il n'y a aucune personne qui habite les quartiers centraux de Detroit. C'est complètement...
C'est mort.
Mais à l'épicentre de Detroit, tu peux compter les autoroutes avec le point là. Ils sont partout. C'est ça l'avenir d'une logique automobile à tout prix là. Alors, ou bien on peut aller et voir les villes qui sont de plus en plus déautomobilisées ou en train d'être déautomobilisées en Europe. Et c'est peut-être l'autre choix. Alors, c'est à nous de décider c'est quoi l'avenir? Et par la suite, on adopte les mesures pour arriver là. C'est comme ça que ça fonctionne.
Dans le livre, il y a question du droit à la ville. Est-ce que c'est une notion que tu peux nous expliquer?
Absolument, oui. Alors, on a un chapitre qui traite la question de le droit à la ville à Mexique. La question de gratuité de transport en commun est soulevée ici dans ce chapitre de cette façon. Regarde, moi je connais Montréal, je vais décrire Montréal un tout petit peu. On a une magnifique bibliothèque, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est à l'intersection de trois métros, c'est au centre-ville, c'est le nombril de Montréal, ce bâtiment. Et c'est gratuit. Et dans lequel se trouvent beaucoup, beaucoup de gens, tous les gens. On a des sans-abri qui prêtent des livres là, on a des gens cravatés, on a, entre les deux, on a tout le Montréal est là. Mais pour les gens qui n'habitent pas le quartier, ils devraient payer 7 $ pour aller. Ça, c'est juste un. Mais si c'est une famille de trois, alors c'est trois enfants et le parent, c'est une fortune pour aller à la bibliothèque s'ils n'habitent pas le quartier. Alors, ça, il y a un lien entre ce que nous avons comme on dit, un bien public et notre accès à ce bien public. Parc Mont-Royal, même chose. C'est gratuit dans les musées à Montréal, les mercredis soirs. Mais sauf que si on est 20% de la population qui ne peut pas aller sans payer cette pièce-là, alors c'est pas gratuit. Alors, le lien entre le transport et un bien commun est intime. Et cette conversation a eu à Mexique. Et ils ont produit une nouvelle idée, et c'est décrit dans le livre. C'est le droit de transport qui est au-dessus de le droit à la ville. Le droit à la ville, c'est un grand parapluie qui mène beaucoup de problématiques, là, de la pauvreté dans la ville. Habitation, avec gentrification, les gens sont exclus. On a des villes qui sont complètement vides, des gens de faibles, de modestes revenus et des pauvres.
Alors, on passe à New York, par exemple. Il y a personne qui peut habiter là, non, à moins d'être millionnaire. Là.
Oui, oui, oui. À New York, par exemple, j'ai vu un cartoon. C'était dans le New Yorker. Alors, c'est une famille de gens ultra riches, aristocrates, qui sont déplacés par les Romains, qui étaient plus riches en sens extrême. Là. On est payé 50 000 fois plus les riches à Rome, à l'apogée de Rome, que le travailleur moyen. Alors, c'était une riche extrême. Alors, les gens de New York, les aristocrates françaises étaient déplacés par les Romains qui arrivent. C'est la gentrification. Quelle horreur! Et alors, on est dans cette dynamique dans les villes. C'est lente, mais c'est définitif, ce déplacement. Et c'est urgent. C'est pas juste à Québec et c'est pas juste à Montréal, c'est tout le monde entier. Depuis maintenant, 2009, 50% de la population habite dans les villes. Ça veut dire que selon la théorie de peak oil, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va avoir une courbe exponentielle le coût de l'habitation dans les villes. Ça, c'est une question urgente sociale par rapport à l'équité sociale. Alors, voilà, on va devoir prendre des mesures, mais très, 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 très fort pour protéger la mixité dans la ville.
Mmh. Puis tu dis qu'il y a eu une conversation à Mexico là, à ce sujet-là.
Toutes ces dynamiques se trouvent au-dessous de cette parapluie droit à la ville. Si vous allez chercher sur le web, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de discours. C'est quelque chose qui est vraiment un mouvement maintenant, international.
Dans le livre Free Public Transport and Why We Don't Pay to Ride Elevators, il est question aussi de Montréal, qui est une ville extrêmement polluée. Qu'est-ce que ça peut faire, la gratuité, là-dedans, pour aider là, à contrer la pollution?
OK, alors il y a deux types de pollution. On peut dire pollution locale. Il y a 1100 personnes mortes qui habitent en proximité des autoroutes à Montréal par année, prématurées. Alors c'est quand même important. Des études à Montréal démontrent que, une étude sur 5 ans de les naissances a démontré définitivement que à peu près 40% des natalités à petit poids été causé par la proximité à une autoroute. C'était Dr. Melissa Généreux qui avait produit cette étude-là. Alors, il y a beaucoup d'effets sur la santé de cette mobilité automobile dans les villes. Alors, ça, c'est la pollution. Mais on a aussi les gaz à effet de serre. Alors, la gratuité...
Il y a aussi les accidents, tout simplement. Hein, pour quelqu'un dans la rue...
oui, c'est
c'est plus que le cancer. Hein?
Absolument, oui. Obésité aussi, intimement liée à notre abus de l'automobile. Moi, je l'utilise le mot abus, c'est important, parce qu'un petit coup de vin, coupe de vin, parfois, c'est bon. Mais si on prend deux bouteilles de vin par jour, là, on a un problème. Les gens qui utilisent la voiture, comme avoir deux bouteilles de vin par jour, là, c'est un problème. La voiture en soi-même est magnifique. C'est peut-être la meilleure invention du 20e siècle. C'est juste quand on l'a bu. On l'a bu par l'utilisation chaque jour. Alors, la gratuité de transport en commun, c'est un signe néant qui démontre si la ville l'adopte. Maintenant, on dit le transport collectif, c'est notre priorité. Et on va laisser nos automobiles chez nous pour aller visiter notre petite boîte dans la campagne. Là. Mais la voiture quotidienne, aller-retour, ça, on ne fait plus ça maintenant. On va faire autrement maintenant. Et avec cette priorité-là, ça va avoir une énorme transformation de la qualité de vie, non juste la pollution locale, non juste gaz à effet de serre, mais aussi beaucoup, beaucoup d'autres bonnes choses vont découler de ça. On va avoir beaucoup plus de flirtation dans la ville.
Flirtation.
On va flirter avec les gens qui sont dans le transport.
Plus comme de relations sociales.
Ben, c'est ça. C'est ça qu'on veut avoir. Moins d'isolation. Plus de intimité, plus de mixité sociale. C'est ça la beauté de transport en commun. Moi, je suis un usager. Moi, je flirte beaucoup, moi. Je vous invite, vos conducteurs, là, de flirter un tout petit peu. Prendre le transport en commun.
Puis oui, puis aussi développer des relations. Là. Essayer de sortir de devant la télé puis de devant l'ordinateur. Hein. C'est un peu vers ça que les gens veulent... on a l'impression qu'on se dirige beaucoup vers ça, mais il faut contrer cette tendance-là, notamment par la gratuité. Mais c'est ça, la gratuité, dans le fond, ça permettrait aux gens de laisser leur voiture à la maison, puis de les encourager, puis de les inciter à quitter leur voiture, puis à prendre un moyen plus écolo. Là.
Je vais juste souligner que transport en commun est en concurrence directe avec une seule chose, c'est la voiture. On a deux systèmes, deux grands choix devant nous. Et alors, quand on élimine la barrière de prix de transport en commun, ça devient, maintenant, il n'y a aucune raison financière. Alors, maintenant, c'est vraiment, maintenant, on est très concurrentiel par rapport à la voiture.
Parlons un peu d'histoire. C'est ça, dans le livre, il y a question de lutte à Montréal dans les années 70. On y retrouve, par exemple, qu'en 1974, il y aurait eu 40 % des Montréalais qui avaient voté pour un mouvement qui s'appelait le Mouvement des citoyens de Montréal, ce qui est quand même assez, un nom assez chouette, assez minimaliste. Ils autres, ils prônaient la gratuité des transports publics. Puis l'année suivante, il y avait une manifestation de 20 000 personnes devant l'hôtel de ville de Montréal pour réclamer cette gratuité-là. Ça sort d'où, ce mouvement-là? C'est quoi, ça, exactement, le mouvement des citoyens de Montréal?
Mais c'était le Rassemblement des citoyens de Montréal, RCM. Moi, en anglais, on dit Montreal Citizens Movement, mais en français, c'était Rassemblement. Okay. C'était créé par trois syndicats. En 1972, il y avait le Front commun. Les trois grands syndicalistes étaient mis en prison. Par la suite, il y avait un deuxième front. Et les grands syndicats à Montréal ont créé une petite équipe de travail. Ils ont rédigé un petit document de 5-7 pages. Une ville pour nous. Cette manifeste était quasiment non changée pendant 10 années. Dans un mouvement politique, le Rassemblement des citoyens de Montréal, et qui était créé par les trois syndicalistes en 1974, 6 mois avant les élections. 6 mois. C'était tout juste formé. Et alors, ils ont créé un congrès, un membership, Et c'était très, très décentralisé, très démocratique. Le noyau pur était dans le plateau, à la gauche, très, très gauchiste le parti, nettement gauchiste, mais un peu aussi hétéroclite. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas très politiques d'un côté ou autre. Mais il y avait les péquistes étaient dans le mouvement. Les NPD fédérales, les anarchistes, les groupes anarcho-syndicalistes étaient là. C'était vraiment
une coalition.
Il y avait le marxiste, il y avait tout le monde était dans ce mouvement. Et aussi des mouvements populaires dans les quartiers. Et ils ont vraiment, contre Drapeau, qui était vraiment, il a eu tous les sièges de conseil municipal en 70. Pendant cette élection, il y avait la crise d'octobre. Et alors, tout ce monde était élu. Mais là, il y avait 18 personnes. Une vraie opposition était élue le jour, c'était à peu près le 3 novembre. Et immédiatement en 75, et sur la bannière avec 5 idées phares, logement communautaire, transport en commun gratuit, d'abord pour les aînés, des quartiers avec pouvoir. Alors, les instances décisionnelles, une décentralisation de la ville de Montréal vers les quartiers. Alors, il y avait des idées très, très, très fortes là, dans ce mouvement-là. Un mouvement, mais aussi un parti politique, on s'entend. Alors, dès qu'ils étaient élus, là, les 18 ont formé un caucus. Ils ont commencé à rouler une campagne pour pousser gratuité de transport en commun, d'abord pour les aînés. Et ils ont monté une pétition, je crois que c'était 60 000 ou 70 000 personnes ont signé et 150 groupes dans la ville ont signé cette manifeste pour la gratuité. Il y avait déjà 8 ans de travail derrière le mouvement. Et alors, c'était vraiment un parti politique qui est une arme pour ce mouvement-là. Drapeau avait dit non. Par la suite, quelques mois plus tard, avec la construction de la stade olympique en vue, ils ont augmenté le prix. Non juste, ils n'ont pas réduit pour les aînés, éliminé le frais.
Ils ont monté les tarifs.
Ils ont monté par 50%. Le jour après, mais pourquoi? C'était pour financer, une grande partie était pour financer les travaux.
Du stade.
Du métro qui nous amène au stade. Le stade a coûté en bout de compte 2,4 milliards de dollars. Il y avait une taxe spéciale sur les cigarettes pour le payer. Là. Non, come on! Et puis, après le 2 semaines, c'était pour quoi? C'était pour 2 compagnies privées pour les expos, baseball, et pour les alouettes, le football. Bière, fun, le cirque. Comme les Romains disent.
Du pain et des jeux.
C'est des jeux. Même pas du pain. C'était juste des jeux. Et qui a profité de ça? Les amis de Maire Drapeau et pendant des décennies. Alors, c'était un fulgurant exemple d'un abus, à mon avis, de cette alliance entre les intéressés privés et un pouvoir municipal. Ça, c'est une grande parenthèse. Mais, OK, alors, à l'époque, on va augmenter le tarif par 50% pour payer ces infrastructures-là. Ça, c'est déjà stupide. Immédiatement, il y avait une énorme crise. Et les étudiants ont commencé. Ils ont commencé à Montréal. Ils ont commencé avec une énorme lutte. Alors, ils ont monté dans 2 semaines un énorme refus global de toutes les instances à Montréal. Il y avait des radiophones, toute une série d'actions qui a abouti dans cette manifestation en face de l'hôtel de ville. 20 000 personnes, quand même, c'est très, très rare là, à l'époque.
Ben oui.
Et puis, mais ça n'a pas abouti dans une décision favorable. Drapeau était trop fort, il était trop...
trop intransigeant. Là.
Absolument, oui. Oui. Alors,
finalement, comment ça s'est terminé sur le rassemblement des citoyens? Ça a tombé?
Alors, par la suite, ils ont dilué un peu leur... d'abord, ils ont... le rassemblement a adopté une position plus à la gauche. Il y avait un schisme, une fracture dans le parti. Et par la suite, en 78, ils étaient complètement éliminé, pas mal éliminé dans les élections. Mais ils ont flushé quelques... ils ont modifié leur plateforme et c'était plus dilué, extrêmement dilué. Et enfin, ils ont gagné l'hôtel de ville en 86 pour deux mandats. Et on a flashé drapeau, enfin. Et pendant ces 8 années de la Rassemblement des citoyens de Montréal, Montréal a décidément changé de beaucoup de façons. Je n'ai pas le temps d'explorer tout ça avec vous, mais...
Ça ressemble un peu à l'histoire de Québec aussi. Il y avait un parti à cette époque-là qui s'appelait le Rassemblement populaire, qui était ensuite le RMQ, avec Jean-Paul Lallier. En tout cas, il y a sûrement plein de parallèles qu'on peut faire avec la ville de Québec.
Puis, j'imagine.
Ouais. Ouais. Puis, dans votre livre, on parle beaucoup donc, de toutes sortes de situations à travers le monde. Maintenant, parlons-en des choses un peu moins connues. On connaît peut-être justement un peu plus la situation un peu au Québec. Vous avez parlé de Taïwan tout à l'heure. Je sais qu'il y a d'autres exemples. Par exemple, on parle de la Grèce, de l'Italie, de la Suède, du Brésil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces autres exemples-là?
Je vais parler de la Suède parce que je crois que c'est intéressant. Depuis peut-être c'est maintenant 15 ans, peut-être plus, il existe un groupe un peu anarchiste là. Il n'y a aucun leadership. C'est horizontal, il n'y a pas de porte-parole et c'est très direct action, action directe. Alors depuis 15 ans, ils sautent carrément les turnstiles. Comment dire ça là? Ils ne payent pas.
OK. Ils passent sans payer.
Exact. Ils passent sans payer. Et tout confondu. Et quand ils ont adopté une innovation, c'est très intéressant. Et mettons qu'une passe mensuelle peut coûter 80 $. Ils mettent 10 $ chaque mois, les membres de plein cas, nous, 10 $ dans un fonds de protection s'ils reçoivent une amende. Alors, ils sont membres, ils se cotisent un peu pour permettre... d'effrayer les coûts si on accroche une amende. Alors ça fonctionne. Alors, chaque semaine, il y a des gens qui sont remboursés, qui sont amendés, qui sont capturés par la police dans le système.
C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'autobus sans payer.
C'est ça.
Et puis là, une fois sur 10, il y a un inspecteur qui passe, il dit « Ah, regardez, je vais vous donner une contravention parce que vous n'avez pas payé. »
Exact.
Puis ils sont remboursés avec le fonds de... Le fond des... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Le fond des fraudeurs.
Exact.
C'est comme une façon de frauder le système, là, si on veut. Là.
Oui. Probablement, ils n'utilisent pas le mot, mais voilà. Mais effectivement. Et puis, cet mouvement plein KNU, point nu, a reçu beaucoup d'attention dans la presse et maintenant est partie prenante dans les débats sociaux. Il utilise cette approche-là pour soulever la question. On ne doit pas payer pour le transport en commun. Alors qui paye? Et est-ce que si on ne paye pas pour ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne doit pas payer? Ça pose la question. Ça ouvre une place pour débattre. Le rôle de prix dans notre société.
C'est vrai. C'est vrai que c'est une question qu'on a de la misère, on dirait, à mettre sur le débat public. C'est le fun, justement, d'avoir une façon comme ça de pouvoir le soulever, cet enjeu-là.
Exact. Alors, c'est le rôle, la fonction de Planck dans point nu dans la société suédoise. Et c'est de brosser ces questions et continuellement. Elles sont très présentes dans la place publique.
Maintenant, parlons un peu d'un des auteurs du livre, Jason Prince. Donc, c'est toi. Là. Qui es-tu exactement? Là?
Oh ben, je suis urbaniste de formation. Je n'ai jamais décidé où mettre un stop sign, par exemple, mais je travaille dans le développement de l'économie sociale à Montréal depuis 25 ans. Là.
C'est-à-dire au sein de la ville de Montréal?
Au sein de la ville. Parfois comme promoteur et parfois comme conseiller. Moi, je travaille maintenant comme conseiller. J'enseigne aussi l'économie sociale à l'Université de Concordia à temps partiel. Et moi, je suis un peu un activiste sur la question de transport et j'ai travaillé beaucoup dans le développement de l'habitation communautaire, puis toutes les questions qui touchent agriculture urbaine. Moi, je suis un urbaniste avec beaucoup de chapeaux. Moi, je porte beaucoup de chapeaux et beaucoup de choses m'intéressent beaucoup et j'essaie de travailler les questions avec les gens autour de moi.
Mais habitation communautaire, dans le fond, est-ce que c'est le logement social? C'est-tu la même chose?
Hein? Ouais. Oui, c'est plus large que ça. C'est OBNL, semble lucratif, habitation semble lucratif et coop.
OK.
Ouais, décommodifié, l'habitation décommodifiée, on peut dire.
OK, décommodifié. OK, c'est bon. Ouais. Puis le livre, c'est Black Rose Book là-dedans. Le rôle de ce groupe-là, c'est quoi? C'est la compagnie d'édition qui éditait le livre?
C'est une maison d'édition de longue date qui a produit, par exemple, parmi d'autres, les livres de Noam Chomsky. C'est un éditeur anarchiste. Il ne le cache pas. Aussi, ils ont publié les livres de Murray Bookchin, un très important penseur de la ville. Alors, il y a des centaines de livres de Black Rose. C'est vraiment reconnu en anglais comme un bon éditeur de ces questions-là.
Puis une des co-éditrices du livre, c'est Judith Delheim. C'est une chercheuse allemande, c'est ça?
Oui, elle est berlinoise. Elle est aussi une activiste. Elle a mené les recherches sur les mouvements de transport en commun gratuits le monde entier. Et ça, depuis des années, elle gère un site web, publictransport.com, je crois, ou .org peut-être. Et il y a beaucoup d'informations sur ce site web-là, de toutes les expériences. C'est elle, la géographière des mouvements. Alors, plus de la moitié des choses dans le livre sont de son réseau à elle. Alors, elle travaille pour une fondation allemande qui est liée à un parti gauchiste. C'est comme ça que ça fonctionne en Allemagne. On va devoir adopter ça au Québec aussi. Ouais, ça serait génial.
Quelque chose qu'on devrait adopter de l'Europe. vous avez dit tout à l'heure notamment qu'en Europe, c'est 20% de la contribution d'utilisateur pour les tarifs. Ici, à Québec, c'est plus de 30%. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait s'adapter de l'Europe. Le livre, je rappelle le titre, « Free Public Transport and Why We Don't Pay to Ride Elevators », c'est sorti le 5 octobre à Montréal. Comment ça a été la réception du livre?
Mais c'était incroyable. Moi, je dis toujours que dans un lancement de livre, s'il y avait 20 personnes dans la salle, c'est un grand succès. Il y avait 70 personnes. On a vendu 41 livres. Il y avait 50 produits dans la première édition. On est dans une logique d'une deuxième édition, tu peux. On va essayer de le traduire aussi en français. On a piloté Google Translate. Ça n'a pas fonctionné. C'est probablement on va l'avoir en 2018 avec Éco-Société. On espère avoir une entente avec eux.
Puis dans les gens qui présentaient le livre à Montréal, il y avait notamment Amir Kadir. Je pense que c'est parce que Québec solidaire a une position sur la gratuité du transport en commun.
Oui.
En ce moment, c'est la campagne municipale à la grandeur du Québec. À Montréal, il y a un sondage qui vient de sortir qui montre que Valérie Plante, l'opposition de Denis Coderre, est en train de talonner Denis Coderre. Puis Valérie Plante, c'est quoi? C'est, dans le fond, la gratuité pour les enfants, les aînés et une tarification sociale pour les personnes pauvres. Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Puis en plus, c'est ça, c'est à Montréal, on a l'impression qu'on parle beaucoup de gratuité. Il y a les risques qui a fait une étude récemment qui disait « ça prend la gratuité », il y a votre livre qui sort. À Montréal, ça semble être un enjeu là, qui est vraiment là, important. Là.
Oui, aussi, lors du lancement, on a invité Iris, qui a produit un 5 pages sur une analyse économique pourquoi on doit adopter gratuité pour le transport en commun à Montréal. Le timing était parfait et je ne savais pas que c'était en production. C'était juste une coïncidence. Valérie Plante, semble-t-il, a le momentum actuellement. Elle a aussi une proposition pour une pink line, une ligne rose qui amène les gens de Montréal-Nord, une haute concentration de population. Elle propose 29 stations. Et si cette ligne rose va transiter le parti de Montréal le plus densément peuplé, ça va servir une population qui en a besoin. Et
actuellement, Montréal-Nord n'est pas desservie par des lignes de transport à métro?
C'est la ligne bleue qui n'est pas complétée. depuis des années, on a essayé de finir la ligne bleue. Et en tout cas, c'est pas direct. Alors, ça ne sert pas très bien. C'est très long, prend cette chemin-là. Aussi, on a une drôle d'idée. C'est un train électrique, un projet de la caisse de dépôt, là, qui pour beaucoup d'acteurs, là, ça ne tient pas la route. ça ne va pas servir les besoins de transport en commun pour les Montréalais, ça c'est certain. C'est plutôt, c'est pas un transport en commun, c'est vraiment un projet de développement immobilier et beaucoup de places.
Ça, c'est le projet qui est porté par l'équipe Coderre, quoi?
Par la Caisse de dépôt.
C'est mis de l'avant, la promotion du projet, c'est.
Oui, Coderre soutient le projet et je crois que Projet Montréal soutient le projet aussi.
Okay.
C'est difficile d'être contre un train électrique malgré le fait que beaucoup d'intervenants qui connaissent qu'est-ce que ça peut être ne pensent pas que c'est une bonne place d'investir là. Mais ça va aussi détruire beaucoup de places fragiles, des milieux humides à Montréal. Il y en a très peu qui restent. Et ça va détruire beaucoup de places humides. Alors, c'est peut-être un projet pas de sept siècles.
Là. Est-ce que vous y croyez, Jason Prince? Est-ce que Mme Plante peut battre Coderre sur la question du transport? Parce que là, vous parlez, son programme, c'est ça, c'est la nouvelle ligne puis des tarifs réduits. Est-ce que ça pourrait la faire gagner?
On avait c'était une lutte à trois la dernière fois. Et la troisième personne, c'était Mélanie Joly. Et elle... qui est dans les manchettes ces jours-ci, je crois qu'elle va devoir changer
son... Toujours pour des mauvaises
raisons. Oui, elle va devoir changer son opinion sur Netflix. Mais à l'époque, elle avait une campagne ultra léger avec cinq idées phares. Dont une était BRT, le Bus Rapid Transit. C'est SRB en français.
OK.
Un projet de SRB, 130 km. Et c'est pour ça que beaucoup de gens dans la périphérie de Montréal ont voté pour elle, à mon avis, à ma lecture de la chose. Et alors, ça représente un peu l'idée qui est maintenant dans le projet Montréal, Valérie Plante. Alors, je crois que... Alors, c'était une lutte à trois, mais non, c'est une lutte à deux. C'est très possible. Il y a deux, trois semaines, je dirais, Denis Coderre va être élu, mais non. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai mis cinq pièces là sur Valérie Plante il y a deux, trois jours.
Alors qu'à Québec, il n'y a pas de sondage. Premièrement, on ne sait pas exactement qui est en avance. Donc, le truc qu'on entend le plus parler, c'est le troisième lien. Donc, on rajoute encore des routes. C'est le transport en commun, c'est au centre des discussions. Mais c'est ça, la gratuité, en tout cas, il y a un parti très, très, très récent qui propose l'idée, option Capitaine National. Allons voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Allons voir, ça va être très bientôt là, les élections, donc on va pouvoir voir si ça va avoir joué dans la campagne. En tout cas, c'est intéressant quand même, la campagne. Il y a un truc qu'on parlait avant l'entrevue. Le collectif Subversité a publié il y a quelques semaines un argumentaire sur la question de la gratuité du transport en commun qui prend 50 pages. Vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en dites?
Je ne l'avais pas encore lu. J'ai lu le site web il y a une année. Okay. J'ai pas lu ce document-là. Peut-être okay. j'ai mal compris qu'il y avait une nouvelle production. Et puis moi, je vais attentivement le lire.
Okay. Il y a beaucoup de points qui se retrouvent dans le livre. On parle de Taïn, on parle de Chengdu, on parle de tarification. On dit que ça devrait être payé notamment par les commerçants, par une partie des automobilistes, par la taxe sur l'essence, puis aussi... par le provincial. Ce qui est intéressant avec ce qui s'est dans les débats récents, là, dans le cadre de la campagne municipale où on a beaucoup parlé de transport, c'est que les RIS, eux autres, ils parlent aussi du fonds vert, là,
oui.
Effectivement. Mm-hmm. Plutôt que de financer la construction de pipelines, ça pourrait servir à financer la gratuité du transport.
Ouais. C'est une bonne idée. Alors, juste savoir qu'on a, on achète, on vend 8,4 milliards de litres de pétrole au Québec par année. C'est l'équivalent dans le Niagara Falls, dans la rivière de Saint-Laurent. C'est une heure de volume dans les Niagara Falls en pétrole par année. Si on a maintenant dans la région de Montréal 3 sous par litre vendu dédié au transport en commun collectif, mais à Vancouver, c'est 17 sous par litre. Ça s'appelle en anglais la tax room. On se souvient quand on a réduit le TVQ, le TPS. par-dessous sur Harper. Immédiatement, Québec avait augmenté ça par-dessous. Alors, ce concept-là de tax room, en comparaison, pour être... Je vais utiliser ce mot-là avec ma langue dans ma cheek, comme on dit. Mais si on compare Québec avec British Columbia, on a de tax room, OK? Alors, c'est 14 sous par litre qui est la différence. Ça représente des centaines de millions de dollars par année de plus qui peut être dédié au transport en commun. C'est possible de réduire le tarif et de l'éliminer complètement si on gère bien nos fonds publics. Alors, c'est possible. C'est facile.
Même. C'est une question politique.
Absolument, oui.
Alors, Jason, c'est la fin de l'entrevue. Est-ce que je te laisse avec le mot de la fin?
Oh, mais c'était un grand plaisir. J'espère que vous allez voter et voter deux fois.
pour les, le
pour, oui, pour le transport comme gratuit. Oui,
puis si on ne vote pas, ben, on peut tout simplement demander aux candidats, candidates, évidemment, de se prononcer. Puis évidemment, ben, il y a d'autres choses que le vote. Dans la vie, il y a aussi, on peut lutter.
on peut toujours lutter.
Merci beaucoup, Jason.
Merci beaucoup.